Inter, le 18-20.
Le 18-20 qui est ce soir, un 18h minuit, édition spéciale autour du débat qui opposera ce soir François Fillon et Alain Juppé. Cette ultime face-à-face va démarrer à 21h précise. Vous pourrez le suivre en direct sur France Inter. D'ici là, téléphone sonne en deux volets. On va commencer tout de suite par les questions économiques et sociales. Dette, déficit, fonction publique, impôts, TVA, j'en passe sur tous ces sujets. Vous avez la parole. À 20h05, deuxième volet du téléphone sonne sur la question des valeurs, les questions culturelles et sociétale, entre guillemets. Traditionnalisme, conservatisme, progressisme, la palette est large et oppose par bien des aspects les deux candidats. Sachez enfin, amis auditeurs, que certaines de vos questions seront directement posées tout à l'heure à François Fillon et Alain Juppé. France Inter sera votre relais auprès des deux candidats. Le téléphone sonne, c'est parti.
Nicolas Demorand. Le téléphone sonne.
Et trois moyens pour nous joindre. Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr si vous aimez le courrier électronique, 01 45 24 7000 pour le standard. On nous attend. Michel, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonjour à tous et merci pour vos émissions.
Merci à vous. Vous avez la parole.
Bon, alors ma question est toute simple, c'est-à-dire que les deux candidats promettent de baisser les charges social pour les entreprises en particulier. Alors je voudrais savoir comment ils envisagent de financer les dépenses sociales et les dépenses de santé et comment ils ont l'intention de le faire.
Merci Michel pour cette question. Ici pour vous répondre, Daniel Cohen que je salue. Bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, directeur du département d'économie de l'École normale supérieure. Dominique Seux, bonsoir.
Bonsoir.
Voix bien connue de France Inter et directeur délégué de la rédaction du journal Les Échos. Marion Lourd, bonsoir.
Bonsoir.
Chef adjoint du service éco et social de France Inter et Karine Bécard. Bonsoir Karine.
Bonsoir
journaliste,
Nicolas, bonsoir à tous.
Journaliste au service politique de France Inter. Daniel Cohen, première question, première réponse. Baisse des cotisations sociales. Comment faire, comment financer, demande notre auditeur.
Très bonne question. J'aimerais pouvoir y répondre simplement. Ce qui est certain, c'est qu'on voit, en effet, dans le cadre du programme de Fillon, des dépenses fiscales de l'ordre de 50 milliards, 35 pour les entreprises, 15 pour les ménages. Dans les ménages, il faut faire le décompte, mais il y a l'ISF, notamment pour 5 milliards, qui est dedans. Avec un financement immédiat qui est de la TVA à 16 milliards, 2 points de TVA. Donc ça nous fait un déficit de 34 milliards, c'est-à-dire 1,5 point de PIB. Ce qui ferait passer le déficit aujourd'hui, en 2017, de 3 à 4,5, pour le dire simplement. Donc on sort des clous du cadre européen et on verra bien comment tout ça se réglera. Puisqu'après tout, le gouvernement sortant, lui, avait essayé de s'astreindre autant que faire se peut à l'objectif de revenir sous les 3%. Donc ça, c'est la première donnée. Bon, il faut voir, je ne sais pas quel va être le timing exact. À plus long terme, ce qui est promis, c'est, dans le cadre du programme de Fillon, moins 100 milliards de dépenses, dont les fameux 500 000 fonctionnaires, dans le cadre de Juppé, qui dépense un peu moins, entre 85, on va dire, et 100 milliards, dont 300 000 fonctionnaires. Alors ça, c'est dans la durée. Alors, dans le cadre de Fillon, c'est le plus simple. Il veut passer d'une dépense de 56% du PIB, pardon, de tous ces chiffres, à 49% du PIB, c'est-à-dire une contraction de l'ordre de 6 points de PIB. Donc, une contraction de l'ordre de 6 points de PIB, s'il l'a fait, ça va faire la même chose qu'avec le pacte de stabilité du précédent gouvernement, c'est-à-dire ça va faire un effondrement de la demande. Donc, on va avoir une politique d'offre avec une baisse de la demande. Ça peut faire une croissance faible et ça peut empirer la question de départ. Donc, je crois que tout ça est très fragile.
Je rigole, mais c'est terrifiant ce que vous décrivez.
C'est sur le fil du rasoir, je suis désolé, voilà.
C'est sur le fil du rasoir ou c'est carrément impossible, Daniel Cohen?
Je pense que c'est impossible, si vous voulez mon avis. C'est impossible de faire le programme d'ajustement budgétaire, d'abord parce qu'il est techniquement très difficile à faire. Faire baisser de 6 points de PIB en 5 ans, on ne l'a jamais vu encore dans ce monde. Même Madame Thatcher n'y est pas parvenue. Et deuxièmement, je pense que si on y arrivait, ça voudrait dire qu'on amplifierait ce qui faisait déjà partie du déséquilibre du précédent pacte de responsabilité, un déséquilibre patent entre l'offre, même si elle est relancée par toutes les mesures qu'on a prises, et la demande. Quel est le problème en réalité, en un mot? C'est qu'on est dans l'union monétaire, c'est-à-dire que des politiques comme celle-là. Dans n'importe quel autre pays du monde, ça peut marcher parce que ça crée une dévaluation de la monnaie qui donne du souffle aux exportations et on peut se dire que l'exportateur va compenser le consommateur intérieur. Ici, on est dans une union monétaire. Chaque fois qu'on fait ça, ça crée une contraction et donc ça ne permet pas d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés.
Marion Lourd, puis Dominique Seux.
Je vais dire ça en mots moins savants que M. Cohen, mais en fait, augmenter la TVA de 1 point pour le taux intermédiaire, de 2 points pour le taux supérieur, c'est le programme de M. Fillon, et augmenter la TVA même de 2 points de 1 point pour M. Juppé, le risque c'est quand même de faire baisser la consommation. Je veux dire, soit les entreprises vont encaisser le choc, et dans ce cas-là, bah, finalement, elles vont pas s'y retrouver, il va y avoir des nouvelles dépenses pour elle, soit ça va retomber sur les consommateurs. Donc à ce niveau-là, ça peut faire baisser la consommation et on se demande à quel moment d'augmentation des prix les consommateurs vont dire stop et consommer moins.
Dominique Seux.
La question d'abord, c'est de savoir si Gerhard Schröder avait présenté son plan. Est-ce que nous serions ce soir là en train de dire ça ne va pas marcher, ça n'aura aucun effet, ce sera scandaleux en plus sur le plan
alors,
économique.
Gerhard Thatcher le propose, est-ce voilà. que ça va marcher?
Si, en fait, l'idée c'est, si je comprends bien, les propositions des deux candidats, elles ne sont pas très différentes de ce point de vue-là. Il y a des différences de dosage, il y a des différences de rapidité, mais il n'y a pas de différence de direction et de nature. C'est de alléger le coût du travail et notamment qu'il n'y ait plus aucune charge au niveau du SMIC, il y a encore environ 10-11% de charge au niveau du SMIC, pour le faire financer par la hausse de la TVA. Alors pourquoi? C'est les experts qui travaillent dans les entourages des deux candidats pensent que ça n'aura pas d'effet sur la consommation. D'abord parce que en Allemagne, ça n'a pas eu d'effet. Pourquoi ça n'a pas eu d'effet? Parce que nous sommes dans un système d'inflation très basse et d'hyper-concurrence. Ce sont les entreprises qui avalent, qui font les efforts de productivité, avec les effets qu'on peut apprécier ou pas, et qui font qu'au résultat, il n'y a pas de hausse des prix et une baisse limitée de la consommation. Et qu'un cercle, voilà. Mmh. Et l'idée aussi, c'est de dire la hausse de la consommation, la hausse de la TVA a un autre avantage, qui est de faire financer les importations, la protection sociale, notamment les importations qui viennent d'Asie, par exemple.
Voilà. C'est intéressant ce que dit Dominique Seux, en retraçant théoriquement le raisonnement tel qu'il est formulé par les deux candidats. Enfin, est-ce que ça marche, Daniel Cohen, en réalité?
Si c'est ça le raisonnement, je comprends pas l'intérêt, parce qu'on donne 35 milliards aux entreprises en disant que les 16 milliards de TVA, c'est elles qui vont le payer. Donc je vois pas là.
Ça,
si c'est ça le raisonnement, il est ridicule. Il vaut mieux faire 35 milliards moins 16 et pas faire de hausse de TVA que de prendre le risque d'une péréquation de cette nature. Bon, vous dites Gerhard Schröder.
Mais vous rajoutez les importations.
Oui, d'accord, ça fait 16% sur 20%, donc oui, ça fait l'épaisseur du
trait. Sur l'Allemagne.
Je veux bien. Donc, sur l'Allemagne, l'Allemagne sortait d'une énorme période de crise, et en effet, quand Schröder a pris ses mesures, d'abord, il a fallu du temps pour qu'elles se fassent. Deuxièmement, le taux de pauvreté est quand même passé de 13 à 17%, qui est à peu près le niveau anglais. Et il y a eu aussi, enfin, je vais pas vous l'apprendre, aussi une formidable réorganisation de l'appareil productif allemand, notamment avec l'ex-Europe de l'Est, qui a fait que l'industrie allemande a retrouvé brutalement des parts de marché. Elle a été la locomotive de l'économie allemande grâce à cette autre chose qui a peut-être rien à voir en réalité avec Schröder. C'est juste la modération salariale que les syndicats d'IG Metall ont signée avec les patrons allemands qui a permis de retrouver un équilibre industriel qui a fait la force de l'Allemagne aujourd'hui. Maintenant, pour reprendre sur Thatcher, enfin sur Thatcher de mémoire, le taux de chômage, il a juste doublé sous Thatcher. Passé de 5,5, enfin je dis ça un petit peu en l'air, à 11,5. Enfin, j'ai les chiffres là, je peux les vérifier. Donc il a juste doublé avant de redescendre 5 ans plus tard, donc les 5 premiers. Oui, mais on n'est pas dans les 10 prochaines années, Dominique. On dit les 5 premières années de Thatcher, le taux de chômage, il a doublé à cause de tous les mécanismes dont on parle. On était, en plus, à l'époque, dans un régime de change flottant. Encore une fois, c'est-à-dire la livre peut baisser pour absorber ce choc, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, on peut croiser les doigts et de dire ça passe ou ça casse, mais au moins se dire que ça peut aussi bien passer que casser. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le problème.
Je voudrais qu'on repasse au standard parce qu'il y a énormément de questions d'auditeurs de France Inter. La parole va circuler bien entendu également en studio. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas Demorand.
Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Alors ma question est relativement simple, mais bon, on est dans une position là où on oppose les candidats et parfois on les rassemble. Donc ma question concernait le prélèvement à la source à la française. Le Parlement vient de voter et approuver dans la loi de finances 2017. Donc ma question peut-être sur Dominique Seux, je voulais savoir la position, est-ce qu'elle était connue, la position des deux candidats aux élections de la primaire et du centre sur la mise en place du prélèvement à la française, le prélèvement à la source, qui, de mémoire, doit être voulu par à peu près 70% des Français. Mmh. C'est une mesure qui touche l'impôt sur le revenu, bien sûr, mais qui est annoncée comme une mesure de modernisation de l'impôt sur le revenu. Donc voilà, ma question est simple. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez des idées sur la mise en place ou pas par les candidats potentiels de la primaire et du centre, Fillon okay. et Juppé, sur cette mise en place.
Merci voilà. Vincent pour cette question adressée à Dominique Seux, il vous répond.
Ben, si j'ai bien compris, en fait, tous les deux reviendraient sur la retenue à la source. Ça n'est pas certain qu'ils le feraient en réalité, parce que les choses sont quand même assez engagées, et il est tout à fait possible qu'à la fin, ils conservent certaines des modalités de la retenue à la source. Le message qu'ils veulent envoyer tous les deux sur ce sujet, c'est pas de complexité supplémentaire pour les entreprises, puisqu'il s'agit de créer un choc favorable, à la fois psychologique, financier et économique, pour les entreprises. Dans la réalité, je pense qu'ils en garderaient une partie.
Marion Lourd.
Oui, sur cette question-là, justement, la droite a longtemps été l'avocate aussi du prélèvement à la source jusqu'à ce que la gauche veuille le mettre en place. Et par ailleurs, en mai prochain, les entreprises, elles auront déjà fait leurs investissements en logiciels qui permettent de mettre en place le prélèvement à la source. Donc le retour en arrière manquera un peu d'intérêt, si vous voulez mon avis.
Daniel Cohen.
Oui, tout à fait d'accord. Je ne vois pas comment on peut revenir alors que les entreprises sont déjà en train d'investir. Ou alors, le pari, c'est de les désencourager, des inciter à faire cet investissement disant de toute façon on a gagné, ne le faites pas, et de fait, il deviendra plus simple de ne pas le faire. Mais malgré tout, pour parler du fond de ce prélèvement à la source en deux secondes, je trouve que c'est dommage, parce que le prélèvement à la source c'est quand même un élément de modernité, on doit être un des derniers pays en Europe à ne pas l'avoir. Chacun sait que les moments les plus tragiques de l'existence d'une personne, enfin il y en a deux, hein, que les psychologues et les économistes connaissent bien, c'est un, quand on perd son conjoint, et le deuxième, c'est quand on perd son emploi. Bon, dans les deux cas, c'est le moment où le fisc vous matraque, puisque vous payez les impôts du disparu, ou vous devez payer des impôts sur la base d'un revenu que vous n'avez plus. Ça n'a donc en réalité rien à voir avec la question de la mensualisation, parce que la mensualisation, c'est une façon simple de payer les impôts sur l'année précédente. C'est quelque chose qui accompagne les trajectoires heurtées de l'existence, en sachant que, je ne sais plus les chiffres, 20-25% de gens chaque année connaissent des pertes de revenus, parce que la vie aujourd'hui, dans le monde contemporain est beaucoup plus aléatoire qu'elle n'était auparavant. Donc, accompagner ces trajectoires, c'est tout à fait fondamental. C'est dommage que simplement pour adopter, vous le disiez très bien, une posture qui est à rebours de ce qu'il proclamait auparavant, ces candidats n'aillent pas dans ce sens, qui est celui d'une modernisation qui ferait d'ailleurs partie des économies sans doute possibles, puisque beaucoup plus, tout serait quasiment informatisé. Donc là, on a un élément de modernité transpartisan, c'est dommage de s'en priver.
Retour au standard, bonsoir Robert, la question des retraites avec vous.
Oui, bonsoir messieurs.
Nous vous écoutons.
Oui, pardon, bonsoir. Oui, on parle beaucoup de la retraite à 65 ans, tous les candidats hein, en parlent, mais ils restent toujours dans le flou. On ne sait pas qui sera vraiment concerné. Ils parlent d'augmenter les petites retraites en dégageant des fonds parce qu'ils veulent repousser l'âge du départ. Mais pourquoi pour financer aussi les petites retraites ne parle-t-il pas de ce corollaire d'augmentation, si vous voulez, c'est-à-dire écréter, diminuer, voire plafonner les grosses retraites. Il y a toujours un plancher, mais il n'y a jamais de plafond. On pourrait plafonner les retraites. Je voudrais juste apporter aussi quelque chose. Pourquoi paie-t-on des retraites pleines et entières aux retraités qui s'en vont à l'étranger? Ces gens ne sont plus solidaires, si vous voulez, par le fait qu'ils ne dépensent plus leur argent en France. Donc il y a fait moins de cotisations, donc ça fait plus de chômage. Et ils ne sont plus solidaires des jeunes qui travaillent aujourd'hui. Mais ils réclament 100% toujours de leur retraite. Et ça, ce n'est vraiment pas normal. Il faudrait diminuer ces retraites-là de 20 à 30%.
Merci Robert pour l'ensemble de ces questions. L'âge de départ à la retraite qui se lance, Daniel Cohen.
Enfin, juste pour donner des éléments empiriques. En effet, c'est une partie importante du chiffrage des différents programmes, hein, puisque de mémoire, on parle de 20 milliards dans les deux cas, alors que c'est pas d'ailleurs tout à fait le même rythme, donc il doit y avoir des éléments à vérifier un peu plus dans le détail. Donc c'est par rapport aux ordres de grandeur dont on parle, c'est tout à fait significatif. Par rapport à la question de l'auditeur, la retraite, on cotise pendant qu'on travaille, dans l'idée que ensuite c'est une espèce de différé de revenus. Au lieu de gagner 100 aujourd'hui, je gagne 70, mais ces 30 ensuite me sont reversés. Donc la question de savoir si je les dépense en France ou pas, je comprends bien entendu la logique. Si on les dépense pas en France, donc c'est de la richesse créée ailleurs. Mais en termes de cette interprétation qui, à mon avis, est la bonne, que les cotisations sociales, c'est une manière d'avoir du salaire différé, à ce moment-là, on doit en avoir le plein usage ou que l'on aille vivre ensuite.
Donc, je vois sur l'âge de départ à la retraite, quelqu'un veut ajouter quelque chose, Dominique
Seux ? Ils passent tous les deux de 62 à 65 ans, avec un rythme qui est un petit peu différent, puisque le rythme de François Fillon est un peu plus rapide que celui d'Alain Juppé. La question qu'on peut se poser, c'est une réforme a été votée en 2010, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Pourquoi est-ce qu'une réforme doit être votée à nouveau pour passer de 62 à 65? Et la question qui est derrière, c'est est-ce qu'il s'agit seulement de financer les régimes de retraite qui entreraient en déficit pour des raisons démographiques, ou est-ce qu'il s'agit de surfinancer pour financer d'autres mesures, par exemple les allègements de cotisations pour les entreprises? Quand on regarde les chiffrages des uns et des autres, ça n'est pas tout à fait clair. Ce qui est en revanche clair, c'est que la plupart des pays sont autour de cet âge-là de 65 ans.
Karine Bécart, puis Marion Lourd.
Je voudrais faire un tout petit pas de côté politique, hein, parce que moi je suis effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup moins économiste que vous. On a vraiment une campagne pour la primaire là, qui s'est déroulée comme une vieille campagne politique. C'est-à-dire que c'était vraiment une campagne de l'incantation. On nous dit on va le faire parce qu'on va le faire. On a parlé tout à l'heure, par exemple, des fonctionnaires, des 500 000 fonctionnaires proposés par Fillon, de les supprimer. C'est assez fabuleux. Quand même, parce que mardi, j'étais à son meeting à Lyon. Son explication face à Juppé, par exemple, c'était uniquement de dire « Juppé nous dit, c'est pas possible, alors voilà, il faudrait croiser les bras et rester chez soi ». C'est la seule explication qu'il nous a donnée quand même. C'est-à-dire, il nous a pas expliqué du tout par quel bout il va s'y prendre, sur quelle fonction publique il va, entre guillemets, taper en premier, etc. Et sur les retraites, c'est la même chose. François Fillon, qui veut notamment aligner les retraites publiques-privées, notamment supprimer les régimes spéciaux, c'est quand même pas une mince affaire de vouloir supprimer les régimes spéciaux. Il nous dit juste, quand il se retrouve face, par exemple, moi j'ai eu l'occasion de le voir face à des cheminots. Les cheminots lui disent, vous savez, on ira directement dans la rue. Il leur répond, bah, écoutez, vous irez dans la rue, moi je le ferai. C'est tout. On ne sait pas comment il va fabriquer tout ça. On ne sait pas ce qui va se passer. On a juste l'impression que ça va totalement cristalliser la société française.
Marion Lourd.
Je vais aller dans le sens de Karine. C'est qu'effectivement,
on va faire un tour de table.
Effectivement, il y a un gain financier, mais il y a aussi une question un peu totem de rapprocher les régimes spéciaux et les régimes privés. D'ailleurs, les deux vont dans ce sens-là. Hein. Ils convergent vers quelque chose comme ça.
C'est aussi des marqueurs idéologiques.
C'est aussi des marqueurs idéologiques des totems, mais par contre. Moi, ça suscite une question chez moi qui est, on veut supprimer soit dans un cas 300 000, soit dans un cas 500 000 postes de fonctionnaires avec des départs à la retraite.
C'est pas 300 000 Juppé, on n'arrête pas d'augmenter.
200 000, entre 200 et 300 000, ça dépend des chiffrages. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on veut supprimer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires tout en reculant l'âge de départ à la retraite. Donc comment on les fait partir, ces fonctionnaires? Enfin, tout ça est un peu bizarre.
Dominique Seux.
On a beaucoup reproché à François Hollande de ne pas avoir annoncé avant ce qu'il avait fait. Après, alors on se met maintenant à reprocher, en gros, de dire, on se met à commenter les projets des uns et des autres, on a dit, de toute façon, c'est totalement impossible, et il faudrait qu'ils nous donnent encore plus de détails. Déjà, ils disent les choses, et des choses qui ne sont pas agréables à entendre manifestement, puisqu'il s'agit quand même d'efforts supplémentaires pour les uns et pour les autres. Donc, c'est difficile de reprocher une chose et son contraire. Ils sont clair quand même sur ce qu'ils veulent faire. D'ailleurs, on est là à décortiquer chaque point de détail, chaque page de documents. Donc il y a déjà cet effort-là qui est fait. Après, quand François Fillon ou Alain Juppé, on va les mettre sur le disent sur le nombre de fonctionnaires, 250 000 ou 500 000. Néanmoins, c'est le retour à la situation de la fonction publique, si on prend le maximum. Je ne pense pas que ce soit faisable, mais c'est mon avis et tout le monde s'en moque, mais je ne pense pas que ce soit faisable. Mais si même 500 000 étaient faits, c'est le retour à l'an 2000. L'an 2000, ça n'est ni la bougie, ni la préhistoire, ni la grotte, ce n'est pas monstrueux non plus. Donc je ne pense pas que ce soit techniquement possible, et je ne suis pas sûr que ce soit même souhaitable. Mais arrêtons aussi de diaboliser. Enfin bon, voilà.
C'est la question aussi du volontarisme politique. On sait politique qu'on peut en revenir du volontarisme, parce que parfois le réel est dur et on bute dessus.
La question, c'est que les candidats de droite se disent, en fait, depuis une vingtaine d'années, les candidats annoncent 100 et ils annoncent 50, ils font 20. Nous, on annonce 100, est-ce qu'on va faire 100, 80 ou 50? Il n'est pas certain qu'ils aillent à 100, mais ils se disent 50, ce sera quand même mieux que 20.
Sur le volontarisme politique, Daniel Cohen.
Oui, la question, je crois qu'on se pose quand même, tous, y compris de Dominique, il me semble. C'est, est-ce que c'est un programme qui a été fait derrière un écran d'ordinateur en disant, allez, 500 000, 30, 15, 20, et puis voilà, ça a de la gueule, c'est bien, c'est radical, ou est-ce qu'il y a un vrai travail en profondeur pour dire, il y a 500 000, 550 000 personnes qui vont partir à la retraite, je vais en garder que 50 000, voilà les flux, voilà à qui je remplace, etc. Parce que ce qu'on a rajouté dans le débat, c'est oui, mais il y a les vacataires. Sauf que les vacataires, il y a presque 40%, c'est les militaires. Donc je pense pas qu'il va les retirer. Il y en a encore 150 000 qui sont les enseignants du privé. Je pense pas qu'il va les réduire non plus. Donc l'impression que ça donne quand même, c'est que on affiche des chiffres, 500, c'est bien, ça marque. Juppé dit 250, c'est plus modéré, mais même lui, je rappelle juste que, voilà, tout le monde le sait, Sarkozy n'en avait fait que
150 000.
Pour, bon, le tout en plus pour des économies qui ne sont pas non plus extraordinaires, parce que c'est 15 milliards tout compris, les gens partent à la retraite de toute manière, on l'a dit, donc ça n'est pas non plus au premier ordre une source d'économie si considérable. Mais indépendamment de la question des économies, oui, je crois qu'on est en droit de se poser la question de savoir si c'est pour annoncer quelque chose, si c'est pour être dans une posture de radicalité, ou est-ce que c'est le résultat d'un travail profond. Maintenant, Dominique dit, et puis ils le feront peut-être pas. Ben oui, mais sauf que le chiffrage du programme dépend de la question de savoir s'ils le feront ou pas. C'est-à-dire que le programme, il est fait de telle manière qu'on dépense fiscalement le programme au départ. Donc on va sur une trajectoire de hausse des déficits. Si la cavalerie ne suit pas, qu'est-ce qui va se passer? On va rester avec des déficits à 4,5%. Pourquoi pas? Ça serait un sacré pied de nez à l'Europe et au précédent gouvernement qui, lui, s'est astreint à rester sous les 3%. Mais est-ce que c'est ça que veut faire quelqu'un qui s'était rendu célèbre aussi pour critiquer le fait qu'on avait un État en faillite? Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut reconstruire pour être sûr que ça n'est pas juste un éclat dont on verra ensuite qu'en réalité, désolé, il n'est pas réalisable et qu'on va l'échelonner et que du coup la révolution annoncée n'aura pas lieu, en tout cas sur les terrains dont on parle.
Et je salue Alexandre au standard. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir à tous.
Nous vous écoutons, allez-y.
Merci de me donner la parole. Donc écoutez, moi je m'interroge sur le modèle en fait, car si j'ai bien compris la proposition de Fillon et même de Juppé, on nous vend le libéralisme des années 80 de Reagan et Thatcher. C'est-à-dire ce qui a commencé il y a 35 ans, on va dire, aux États-Unis et en Angleterre. On en voit aujourd'hui les résultats. Voilà. Et en ouvrant ça à travers un principe central, comme quoi il y aurait la cascade. Si les super-riches font des affaires en grand, les petits vont en profiter.
Ça ruisselle vers le bas.
Voilà, le fameux, la cascade de ruissellement, de ruissellement d'argent qui nous tombe dessus depuis 35 ans. Et en l'occurrence, on voit que ça marche pas parce que ce ruissellement, il est siphonné, hein, on a bien compris le truc. Hein. En dessous des cadres supérieurs, ça part direct aux Bahamas, au Panama, etc. Il y a des fortunes actuellement, si vous voulez, qui sont offshore. Et ces fortunes, c'est celles dont l'État, en fait, est en train de mourir, de ne pas les percevoir comme il le faisait avant, pour fonctionner correctement. Parce que la merdasse d'actuellement, c'est pas qu'il n'y a pas du fric. C'est qu'avant, il y avait du fric qu'on arrivait à récupérer. Aujourd'hui, il est ailleurs. Ça a été multiplié par 14 entre 2000 et 2016, les placements offshore. Vous voyez, sans parler des 40% de l'argent de la drogue qui est lavé à Londres depuis les années 2000, comme nous le dit.
On va remonter à la source de la cascade, Alexandre, si ça vous dérange pas. Ça va ruisseler jusqu'aux barons de la drogue, petits et grands, mais on va effectivement soumettre ce principe. On l'entend, hein. On déverrouille en haut, on supprime l'ISF et ça va ruisseler vers le bas. Daniel Cohen, ça marche, ça marche pas?
Si ça marchait, on n'aurait pas Trump élu aux États-Unis. On se rend compte quand même qu'aussi bien, enfin, on est dans une année incroyable de 2016, enfin, l'année de toutes les surprises. On a eu le Brexit, on a eu l'élection de Trump, qui sont à chaque fois, on est quand même obligé de le dire, Thatcher plus 40 ans, Reagan plus 40 ans, un petit peu moins, 35, je sais pas. Mais donc oui, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et je trouve incroyable, en effet, c'est un peu le sens de la question, c'est que la France est toujours en décalage de cycle. Dans les années 60, tout le monde était à gauche, nous on avait le général. Dans les années 80, tout le monde était à droite et nous on avait Mitterrand. Et là, au moment où on est un peu en train de réduire la voilure sur tout ce qui a fait le réganisme, etc., nous on y va. Donc il y a quelque chose d'un peu bizarre dans le cycle politique français qui n'est pas anodin, parce que De Gaulle, ça veut dire...
C'est le génie de la France, peut-être.
Peut-être, sauf que De Gaulle, ça veut dire mai 68, parce qu'il y a eu un tel décalage entre l'aspiration des gens et la réalité du pouvoir que ça a fini par péter. Et dans le cas de Mitterrand à contre-courant, il s'est quand même retrouvé avec une gauche complètement éclatée parce qu'il a été obligé de prendre des mesures totalement impopulaires, la désindustrialisation, etc., qui finalement fait que aujourd'hui, la gauche est dans un état de ruine assez évident. C'est en partie l'effet différé de tous ces contre-mis que la gauche a été obligée de prendre parce qu'elle était à contre-courant d'une époque. Donc là, qu'est-ce qui se passerait si, dans ce cas-ci, ça ne marchait pas? Quel serait le retour de bâton? Chacun voit à peu près ce que ça pourrait être, et ce serait donc très préoccupant. Donc oui, cette question de faire du Reagan et du Thatcher...
C'est le Front National et Marine Le Pen, c'est ça ce que vous voulez dire?
Bien sûr, ou une forme de radicalisation extrême. On peut tout à fait imaginer que ça vienne d'ailleurs, mais oui, c'est ça que j'ai en tête. Donc cette question d'être à contre-courant, de faire du réganisme comme partout on pourrait dire, il fallait le faire plus tôt. Bon, sauf que ça fait qu'on est dans un climat où la protestation va être plus vive contre des choses que les gens ne vont pas considérer comme justes, sachant qu'ailleurs on ne les fait plus, on ne les fait pas. Donc je vois en effet un problème. Sur la question du ruissellement, c'est vrai que quand on regarde les baisses d'impôts qui sont proposées, en effet c'est la différence avec le pacte de responsabilité, c'est qu'il y a un gros paquet dans les deux cas pour les ménages, 15 milliards dans le cas de Fillon, mais quel ménage? 5,5 l'ISF, donc c'est pas tous les ménages, et puis deuxièmement c'est la restauration du quotient familial dans ses périmètres antérieurs. Ça veut dire par définition ceux qui en ont été privés au cours des dernières années, c'est-à-dire des ménages plus aisés que la moyenne. Donc il y a quelque chose dans cette politique fiscale de totalement anti-redistributif qui est étonnant qu'on prenne si peu de précautions, je trouve même politiques, pour essayer d'euphémiser le choc fiscal qu'on est en train de faire.
Karine Bécard.
Je veux dire une toute petite chose, c'est effectivement on a tendance à beaucoup assimiler François Fillon à Margaret Thatcher. Lui-même en fait ça lui plaît beaucoup. Ça le fait sourire, en général il aime bien qu'on dise ça quand on est soit dans les meetings, soit quand il rencontre des militants. Les militants lui disent et vraiment il raffole. Souvent, il se limite pas à ça. C'est-à-dire quand on lui pose vraiment la question, il dit... Oui, Margaret Thatcher, Gerhard Schröder, Renzi, vous pouvez me comparer un peu à qui vous voulez. C'est-à-dire, en gros, à ceux qui ont osé faire des choses. Je suis vraiment pas persuadée, que ça soit un ultra-libéral ou un pur libéral. Alors après, je manipule moins bien tous ces concepts que vous. J'ai le sentiment, moi, quand je lis ces propositions économiques, que c'est pro-patronal. Je sais pas si c'est scrupuleusement libéral.
Voilà, c'était Dominique Seux.
D'abord, je reviens sur la question de la cascade. Oui, ça a ruisselé. Ça a ruisselé pour 3 milliards d'habitants sur la planète. Et ça, on peut pas l'oublier. On l'oublie quand même un tout petit peu facilement. Ça a ruisselé pour la majorité, je dis la majorité des habitants des pays développés, pendant des années, avec la baisse des prix à la consommation et donc une hausse du pouvoir d'achat. Après, la question, c'est la question de la taille de la minorité et donc la taille des perdants. Combien sont-ils? Est-ce que les perdants risquent à un moment de devenir une majorité? Donc ça, c'est la première question. Et le second point, est-ce que la France est dans une situation atypique? Elle est, sur le plan, par exemple, des écarts de revenus et d'inégalités, elle est le pays dans les grands pays développés où les inégalités sont, et d'assez loin, les moins importantes. Quand on prend les 20% les plus riches, termes de revenus, les 20% les plus aisés, les 20% les moins aisés. Donc la France est assez décalée. Si on applique le programme, si on lit les documents et d'Alain Juppé et de François Fillon, la dépense publique en termes de PIB reviendrait à 49 ou 50%. Aujourd'hui, c'est 56. 55, 56, 57, selon les critères qui sont discutables. On est évidemment très très loin des chiffres américains, des chiffres britanniques. On n'a pas basculé, je crois, vers la société ultra-libérale. Quoique le terme ultra-libéral n'existe pas, il n'est qu'un terme polémiste.
Daniel Cohen, un mot rapide et puis on repart au standard.
Deux choses, Dominique, pas pour vous contredire, mais le fait que ça a ruisselé aux États-Unis, non. Pour 90% de la population américaine au cours des 30 dernières années, il n'y a eu aucune progression du pouvoir d'achat. Aucune. La totalité, c'est le chiffre officiel, la totalité du pouvoir d'achat était concentrée dans les 10% les plus riches, et au sein de ces 10% les plus riches, le 1% a fait la moitié de la progression du pouvoir d'achat. Donc on est dans quelque chose de totalement inédit. Vous avez raison de dire d'ailleurs qu'on ne voit pas du tout ça en France, j'ai envie de dire grâce à Dieu, mais on a quelque chose de totalement explosif. Ça, c'est le point vraiment le numéro un. Le point numéro deux sur le libéralisme, c'est que c'est pas tellement les chiffres dont on vient de parler qui sont la trace du libéralisme. Ça, encore une fois, c'est des jeux fiscaux qui profitent aux uns ou aux autres. C'est toute la liste qui suit, c'est-à-dire dans le cas de Fillon, il n'y a plus de durée légale du travail, comme d'ailleurs en Angleterre. C'est-à-dire que, voilà, pour travailler 48 heures, avec un maximum de 48 heures. Donc, c'est autre chose que le monde dans lequel on est, où il y a des références, des normes, etc. Peut-être qu'il est meilleur, mais en tout cas, j'appelle ça du libéralisme. Dans les causes de licenciement, que Fillon va introduire, il y a maintenant la possibilité d'arguer d'une réorganisation interne de l'entreprise. C'est-à-dire, Nicolas, vous allez ailleurs, désolé, on ne peut plus vous garder. Parce que, alors que, vous n'êtes plus protégé par le fait qu'au sein de l'entreprise, il y avait une idée qu'on allait protéger les gens des vicissitudes du job qu'ils occupent. Donc ça, c'est quand même un deuxième point qui est tout à fait fondamental. Et puis on pourrait en donner quelques autres, je ne vais pas garder trop le... Donc je pense que oui, il y a un choc libéral dans l'ensemble de ces mesures, et je crois qu'il faut l'assumer. La question que vous posiez...
La question, c'est de savoir si choses vont bien aujourd'hui, tout va bien avec un taux de chômage de 10%, avec un PIB par habitant qui n'a pas bougé depuis 10 ans, ce qui n'est jamais arrivé en France, c'est-à-dire un PIB par habitant qui est à la virgule près le même qu'en 2008.
Mais des inégalités
après,
qui se réduisent, selon l'INSEE.
Sujet, après la question qui est posée à la droite et à laquelle elle ne répond pas, c'est qu'elle n'a pas, elle a un libéralisme qui, je dirais, est assez comptable, avec des mesures budgétaires. Et ça, c'est vraiment old school, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça n'a... Alors, on pourrait faire le couplet sur « ça ne tient pas compte du numérique », etc. Mais ce n'est pas ça, fondamentalement. Le libéralisme, au fond, c'est peut-être plus l'écart Macron que des curseurs qui se bougent. Et donc, ce qui manque à la droite, pour l'instant, de mon point de vue, c'est le récit libéral. Il nous manque un récit libéral.
Oui, ou en tout cas, François Fillon disait beaucoup de choses en meeting sur la liberté. Hein, la liberté, liberté d'entreprendre,
voilà, en tout cas, ce n'est pas...
la liberté de faire, etc.
Ça n'est pas ce qui nage ou surnage dans le débat pour l'instant.
Allez, retour au standard. Bonsoir Daniel, bonsoir Cécile.
Qui est... Oui, bonsoir.
Cécile.
Bonsoir.
Allez-y,
bonsoir,
Cécile. Daniel.
Oui, bonsoir, moi je suis... Oui, je vous entends.
Ah bah alors c'est Daniel qui prend la parole en premier. Allez-y Daniel, et puis Cécile juste après.
Ok, moi je suis agriculteur en Charente, donc j'ai de gros soucis avec les primaires, parce que j'ai voté dimanche dernier, là je suis dégoûté de ce qui se passe entre les deux tours. Je vois les candidats se déchirer, je trouve ça stupide, mais bon, c'est leur choix. Et alors moi je me pose la question, parce qu'on n'a jamais entendu parler du milieu agricole pendant les primaires. Alors, au jour d'aujourd'hui, on vend du blé qu'on vendait au même prix il y a 30 ans, les charges ont augmenté, nous on crève tout doucement un petit peu, on nous laisse crever là, et moi je vois pas d'avenir au niveau de la filière agricole et para-agricole. Le jour où ça va tomber, voilà, et ça va, je sais pas au niveau agricole et para-agricole, le nombre d'emplois que ça va représenter. Donc moi je me pose la question, savoir si on va continuer d'être agriculteur longtemps, quoi. Voilà.
Merci Daniel pour cette question, on y apporte des éléments de réponse juste après Cécile, que je salue à nouveau. Vous avez la parole, Cécile.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour la qualité de vos émissions. Moi, je souhaiterais savoir ce que pensent vos invités... Vous m'entendez, là ?
Oui, oui, parfaitement.
Oui, pardon. Je souhaiterais savoir ce que pensent vos invités des promesses de dégressivité des allocations chômage des deux candidats, dont le raisonnement est le suivant, que les demandeurs d'emploi moins indemnisés et moins longtemps seraient incités à rechercher un emploi. Or, il me semble que c'est partir du postulat que les demandeurs d'emploi ne cherchent pas d'emploi, ce qui me semble être pas le cas pour une grande majorité, et aussi du postulat qu'il y a des emplois à prendre. Or, ça me semble pas être le cas non plus, et je crois qu'une étude récemment a démontré l'inefficacité et l'inutilité d'une telle mesure.
Merci Cécile pour cette question. Marion Lourd, vous voulez y répondre ?
Oui, il y a effectivement des études qui montrent que ça ne sert à rien, mais j'ai l'impression que ça correspond plutôt à une philosophie qu'on trouve écrite noir sur blanc dans les deux programmes, c'est-à-dire qu'on ne doit pas gagner plus quand on est en inactivité qu'en activité. Et là, les deux candidats disent la même chose. Après, ils veulent faire à peu près la même chose de façon différente. François Fillon veut plafonner à 75% du dernier salaire les allocations et ensuite les rendre dégressives. Et pour Alain Juppé, il y a toujours cette composante de négociation qu'on retrouve assez peu finalement dans le programme Fillon.
C'est-à-dire indemnisation chômage frotte avec critique de l'assistanat. C'est ça, Daniel Cohen ?
Oui, tout à fait. Il y a une dimension morale à cette question qui est donc évidemment totalement déplacé, comme le disait votre auditrice. Enfin, on sait bien que pour l'essentiel, les chômeurs ne sont pas des gens qui sont contents d'être dans l'inactivité, qui cherchent un emploi. Maintenant, à partir de ça, on peut imaginer quand même d'autres choses à faire pour réformer ce système que ce qui est proposé d'avoir simplement des économies budgétaires. Parce qu'au bout du compte, ça rapporte aussi des économies budgétaires. Donc, on voit bien qu'il y a la morale et l'économie budgétaire va dans le même sens. Mais quand même, il y aura de la protestation quand on comprendra qu'on fait tout ça pour permettre que l'ISF puisse être dorénavant supprimé. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va être en tension. En tout cas, quel que soit le résultat final de cette élection.
Sur l'agriculture, on est en train de crever, disait notre auditeur. Qui veut répondre ?
Je vais juste faire un petit truc, parce que c'est effectivement... Il a parfaitement raison, cet auditeur, dont j'ai perdu le prénom. Il n'a quasiment jamais été question d'agriculture dans aucun des meetings que j'ai pu suivre. Une seule fois, il n'y a pas très très longtemps, Alain Juppé, c'était au Zénith de Paris, il y avait beaucoup de monde, et il a dit « Il faut que l'agriculture française redevienne la première agriculture européenne ». C'est tout.
Fermez le banc.
On n'a pas compris comment, pourquoi, comment il allait s'organiser, etc. Là encore, on était parfaitement dans l'incantation.
en train de crever l'agriculture française, Daniel Cohen ?
Elle subit bien sûr un choc très négatif avec le retournement du cycle des matières premières. On a pensé que les Chinois allaient nous tirer à la hausse. Et c'est pas seulement en France, en Argentine, au Chili aussi, bon, tout cycle des matières premières qui était haussier, c'est brutalement retourné. Alors ça fait partie de notre bonheur aussi, si la croissance repart en France, c'est parce que le prix des matières premières et notamment du pétrole s'est effondré, ben, on a retrouvé du pouvoir d'achat et je pense que ça explique un gros deux tiers de la raison pour laquelle la croissance est repartie et l'emploi aussi en France. Donc des événements complètement extérieurs qui d'ailleurs pourraient ne pas se répéter dans le quinquennat qui vient, puisqu'on voit bien qu'il y a des mesures qui sont prises par le PEP et autres pour remonter le prix des matières premières. Donc oui, on est dans un cycle. Et nous avons, nous, des agriculteurs qui sont dans ce cycle des matières premières, donc qui subit les aléas de la conjoncture. Et je comprends tout à fait la détresse de la personne qui s'est exprimée.
Dominique Seux.
C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent, pour être très concret, choquer. Savez-vous aujourd'hui que le prix d'un litre de lait, 28 à 31 centimes, c'est moins que le prix d'une cigarette. Et quand on voit la somme de travail engagée, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Manifeste, il y a le grand cycle, ce qu'on appelle le grand cycle des matières premières, le grand retournement. Il y a aussi une question d'organisation des filières agricoles. On voit bien que les coopératives ne sont pas assez concentrées, qu'elles sont trop nombreuses face à la grande distribution, pour dire les choses comme elles sont. Et donc, il y a des questions d'organisation qui ne se sont pas faites depuis pas mal d'années, pas mal de dizaines d'années, et qu'il serait temps de faire. Mais là, c'est une question d'organisation de la filière aussi, et c'est aussi les questions européennes. Sur la dégressivité des allocations chômage, j'avoue que je pense exactement comme l'auditrice, la dégressivité qui a existé pendant longtemps, jusqu'en 2001, je crois, de tête, la dégressivité, c'est dire aux demandeurs d'emploi, en réalité, c'est parce que vous ne cherchez pas qu'il faut vous baisser les allocations. En revanche, il y a une question, c'est que parmi les pays développés, la France est le pays qui a la durée d'indemnisation, qui est une des plus longues, et avec une entrée, une des plus faciles dans le système. Et donc nous avons un système qui est financièrement compliqué, quand on a un taux de chômage aussi élevé que le nôtre.
On en reste là pour ce premier téléphone sonne consacré aux questions économiques et sociales. Un débat qu'on va avoir le temps de poursuivre, bien entendu, sur les programmes économiques dans cette élection présidentielle. Je remercie Daniel Cohen, Dominique Seux, Marion Lourd, Karine Bécard d'avoir répondu aux auditeurs d'Inter. Le téléphone sonne continue après le journal avec Laurence Thomas. On va parler des questions de valeur, l'école, questions culturelles, questions dites sociétales. 01 45 24 7000 franceinter.fr. Twitter avec le mot-clé Telson. Je vous rappelle que certaines de vos questions seront posées directement tout à l'heure à François Fillon et à Alain Juppé. France Inter fait le relais donc entre vos questions et les candidats qui s'expriment dans un peu plus d'une heure maintenant.
France Inter, édition spéciale. Entre deux tours de la primaire de la droite et du centre.
Vive la République
et vive la France!
Nicolas Demorand.
Et oui, édition spéciale autour de l'ultime débat de la primaire de la droite. François Fillon et Alain Juppé en face à face. Dans un peu moins d'une heure, vous pourrez suivre le débat en direct sur France Inter. D'ici là, nous retrouverons sans doute nos envoyés spéciaux auprès des militants des deux candidats. On fera peut-être aussi un tour par les coulisses du studio où le débat aura lieu. Pour l'instant, vous avez la parole. Le téléphone sonne continue, amis auditeurs d'Inter. Il continue cette fois sur les questions des valeurs, les questions culturelles, les questions dites sociétales, famille, mariage, école. À vous de mener le débat. 01 45 24 7000 franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Je salue Lise qui nous appelle de l'Hérault. Bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir à tous.
Et vous avez
bonsoir
la
monsieur. Oui, bonsoir à tous et bonsoir monsieur Nicolas Demorand et merci pour la qualité de vos interventions.
Merci à vous. On vous entend parfaitement bien.
Bon, ben super. Donc voilà, on entend beaucoup parler en fait d'un certain nombre de points de détail. En fait, je caricature un peu sur les programmes de chaque candidat. Moi, la question que je me pose, c'est que on entend très peu souvent parler de la vision de la société, en tout cas du projet de société qu'ont chacun des candidats. Voilà, donc je me pose vraiment cette question. Pourquoi est-ce que ces candidats-là parlent, enfin en tout cas ces candidats-là, très souvent les candidats parlent de points de détail mais jamais aucun d'entre eux parle de leur philosophie de société, quelle est leur philosophie de la société qu'ils voient et comment ils envisagent cette société-là à partir de leur programme.
Très belle et vaste question, Lise. Merci de l'avoir posée. Pour vous répondre, je salue Thomas Legrand, éditorialiste politique à France Inter. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Karine Bécard est toujours avec nous. Karine, bonsoir. Bonsoir à nouveau, journaliste au service politique de France Inter. Dominique Régnier, qui était avec nous à 18h, nous a rejoint également. Professeur à Sciences Po, Fondation pour l'innovation politique. Je salue Jean-Louis Bourlange, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien eurodéputé, vice-président de l'UDF, ancien vice-président de l'UDF.
Il y a
prescription maintenant.
Au
siècle dernier. Professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, ça s'appelle même plus comme ça maintenant, c'est Sciences Po. Vous n'êtes plus professeur non plus.
Bon, est-ce que ça appartient à un monde qui n'est plus.
Vous êtes là. Mais est-ce que vous êtes bien au micro de France Inter? Ça, c'est une vraie question. Lucien Jaume, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de recherche émérite au CNRS, c'est Vipov, c'est ça?
C'est ça.
J'ai pas dit de bêtises. Philosophe et politiste, est-ce que vous voulez répondre à Lise?
Écoutez, moi je suis entièrement d'accord à ce que je viens d'entendre parce que je suis contre les primaires. Je suis absolument contre les primaires parce que précisément, elles empêchent, elles fragmentent, elles parcellisent, elles empêchent finalement, en réalité, de présenter un projet assez synthétique, assez global. Or, si nous regardons la Constitution de la Ve République, la fonction présidentielle supposait, dans des temps, n'est-ce pas, où Jean-Louis Bourlange
était vice-président de
l'UDF. Voilà, exactement. Elle supposait quand même la globalité d'un projet et pas une addition de mesures économiques, de mesures scolaires, de mesures familiales. On pouvait voir non seulement une personne, un homme ou une femme, mais on pouvait voir l'ensemble d'un projet affronter un autre ensemble.
Excusez ma question très théorique, où est la poule et où est l'œuf, Lucien Jaume? Est-ce que les candidats n'ont pas de projet de société et c'est de leur faute ou est-ce que c'est le système qui les empêche de le formuler?
Ma réponse,
sont-ils nuls ou est-ce le système?
Non, ils ne sont pas nuls du tout. Ma réponse, c'est que c'est plutôt le système qui est une espèce de Barnum médiatique où l'on essaie de faire s'entrechoquer les têtes, où des dames agressives prennent à bras le corps tel ou tel qui tantôt se met en colère, tantôt leur répond avec humour. Donc je pense que c'est pas possible. Je pense que cette gadgetisation de la vie politique qui provient de l'impuissance des partis politiques, car la gauche a fait cela parce qu'elle n'arrivait pas à départager les candidats. Et ensuite, c'est Fillon, si je me souviens bien, qui a dit pour la droite, on sera obligé de faire pareil. Moi, je trouve que cette auditrice pose une excellente question.
La parole à Karine Bécard, avant le président Bourlange.
Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Je trouve que, notamment, les trois principaux candidats qu'on a beaucoup suivis, enfin, en tout cas sur la fin, à savoir Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé, je trouve qu'ils ont fait vraiment, tout au long de cette campagne, de la vieille politique. C'est-à-dire qu'ils étaient encore dans j'énonce un certain nombre de petites mesures ou de grandes propositions, voyez ça comme vous le souhaitez, et piocher là-dedans, trouver votre bonheur. Celle que vous avez critiquée, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez trouvé visiblement agressive.
Non, pas du tout. Je fais allusion à Léa ou à telle autre personne,
notre ami Léa Salamé.
Rentre dedans,
moi, j'avais bien compris.
Pardonnez-moi. Moi aussi.
J'avais compris.
Pardonnez-moi. Voilà. En tout cas, Nathalie Kosciusko-Morizet m'a donné le sentiment d'être,
s'il vous plaît,
d'être d'une autre génération. Et moi, j'ai eu le sentiment qu'elle dessinait justement une vision, la sienne, on la partage ou pas, mais de la société. Je dirais la même chose d'Emmanuel Macron. Alors certes, il concourt pas à la primaire de la droite, mais il y en a effectivement malgré tout qui sont dans ça. Donc c'est bien propre à une génération et à ceux qu'on va suivre, notamment ce soir, Juppé.
Jean-Louis Bourlange, sur les projets de société, sur la vision.
Je suis également d'accord avec l'interlocutrice, l'auditrice qui nous a interpellé avec justesse. Simplement, je ne comprends pas du tout. Je comprends très bien la frustration de M. Jaume. Je ne comprends absolument pas pourquoi il l'attribue aux primaires. Je veux dire, la critique qu'il a faite, c'est une critique qui porte sur le débat démocratique. Le débat démocratique, il suffit de lire Lewis Carroll, par exemple, pour savoir que c'est toujours comme ça. C'est une espèce d'émiettement, de polémique, et vous avez promis ça. Donc je crois que ça porte sur l'élection en tant que telle. En revanche, on peut se demander effectivement pourquoi, dans la primaire, comme d'ailleurs dans la présidentielle, car on aura les mêmes problèmes, pourquoi les hommes politiques ne sont plus en mesure ou ne veulent plus aller au-delà d'une véritable présentation. Moi, je suis frappé du fait que dans cette affaire, il y a des différences à la fois stratégiques, entre, par exemple, Fillon et Juppé. Il y a vraiment, Fillon représente une droite qui est toute la droite et un peu rien que la droite. Stratégiquement, c'est très homogène. Ça pose un problème de minorité dans le pays. Juppé incarne quelque chose qui est différent, qui est l'alliance de la droite et du centre, qui est quand même la configuration historique fondamentale de la Ve République, à part quatre années entre 65 et 69, sous des formes différentes. L'alliance de la droite et du centre a été la règle sous quand l'opposition était... Bon, là, il y a quelque chose. Ça signifie quelque chose. Est-ce que nous voulons aller dans un pays qui est gouverné par une famille ou par un mix de familles? C'est un problème sur le plan stratégique. Il y a un enjeu fondamental qui est de savoir comment on se situe par rapport au populisme. Le populisme marque des points. Il y a le Brexit, il y a
Donald Trump,
l'extrême droite allemande qui est quand même préoccupante, il y a Donald Trump, il y a Marine Le Pen, et on voit bien qu'il y a un enjeu très fondamental. Et il y a Poutine également, d'une certaine façon, Orban, enfin il y a vraiment tout un ensemble de problèmes. Et on voit bien que ça véhicule, et c'est ça qui devrait apparaître avec, et je pense que Juppé aurait dû faire paraître ça avec beaucoup plus de clarté avant le premier tour, il y a un enjeu profond. C'est-à-dire, est-ce qu'on est décidé à défendre la démocratie représentative? Est-ce qu'on est décidé à défendre la sécurité collective, l'OTAN, sur laquelle on a fondé la stabilité européenne? Est-ce qu'on est décidé à défendre une économie ouverte de régulation, ou est-ce qu'on veut fermer les frontières, aller vers le protectionnisme? Est-ce qu'on est décidé à défendre un système de protection sociale? Doit-il être rénové? Toutes ces questions-là, elles existent, elles sont fondamentales, ce sont les questions que se posent les électeurs, et elles sont un peu noyées dans le déluge de chiffres qu'on nous oppose.
On poursuit le tour de table avant de retourner au standard. Dominique Régnier, puis Thomas Legrand.
Bon, la question à l'intervention de l'auditrice Lise me paraît très, très très pertinente. Je l'assimilerai pas non plus à la primaire. Il y a une incapacité des candidats de gauche ou de droite d'ailleurs à dessiner un horizon, à passer du programme au projet, à une société désirable, etc.
Mais quand il a dit identité heureuse, Alain Juppé, tout le monde s'est moqué. Voilà, ça lui a été renvoyé, alors que c'était quand même l'amorce d'un projet de société.
De quelque chose, absolument.
Enfin, en tout cas, un horizon.
Mais tout ceci, et c'est à ce point, à mon avis, que l'intervention est très pertinente de cette auditrice, tout ceci se passe dans un contexte qui n'est pas comparable aux autres. Cette fois-ci, et c'est pour ça qu'on parle des valeurs ce soir, et on en parlera beaucoup, cette fois-ci, nous sommes dans une époque où les Européens, les Occidentaux même, ont très profondément, et pour de vraies et bonnes raisons, le sentiment qu'une bonne partie de ce qu'ils savaient, de ce en quoi ils se retrouvaient, de ce qui les représentait, certains vont jusqu'au Heimat, au foyer familier de ses origines, que tout ceci est en train de disparaître, et c'est vrai aussi. Et donc, d'une certaine manière, on a, y compris à travers la question qui nous a été posée, mais aussi à travers une candidature comme celle de François Fillon, qui sur ce plan-là est plus marquée, sur le mode, je dirais, de la préoccupation, on fait droit à un état d'esprit qui, depuis très longtemps, en tout cas, n'avait pas existé en Europe et en France. Et c'est le risque qu'a pris Alain Juppé, c'est un beau risque intéressant, que de dessiner un effet dans cette société-là, inquiète. C'est ça qui travaille aujourd'hui l'Occident.
C'est-à-dire, le bonheur est possible. C'était quasiment obscène.
Nous pouvons être heureux ensemble, en plus.
C'est
ce point-là, c'est tout à fait exclu aujourd'hui, implicitement. Nous ne pouvons que cohabiter pacifiquement, mais faire communauté. Mais comment faire communauté? Nous sommes dissemblables. Et donc là, c'est la vraie question. C'est une grande question. Je ne dis pas que l'économie ne jouera pas un rôle essentiel. Mais si on veut comprendre Trump, le Brexit, la poussée de Marine Le Pen, peut-être l'élection de Hofer en Autriche et la poussée de l'AFD en Allemagne, etc., il faut introduire cette dimension culturelle. Elle compte au moins pour moitié.
Thomas Legrand, puis le standard.
Sur l'idée du grand dessin, c'est vrai que c'est très frustrant de commenter tous les jours la politique comme ça, et en sachant qu'effectivement, il n'y a pas de grand dessin, on est un peu frustré. Mais il faut savoir que les partis de gouvernement, le Parti Socialiste et l'UMP maintenant, LR, sont depuis des décennies dans la crise et on leur demande de réparer, on leur demande de nous sortir de la crise. On n'en est pas encore au grand dessin. Et les seuls qui proposent des grands dessins, finalement, c'est le Front National et les écologistes. C'est eux qui ont des visions alternatives de la société d'aujourd'hui. Et sinon, l'identité heureuse, c'est, bon, bah, c'est essayons de vivre bien ensemble, mais bien comment ? C'est ça qui est compliqué. Il n'y a pas de glue. La glue de la gauche, c'était la lutte des classes, le progressisme. La glue de la droite, c'était la liberté, l'autorité et la responsabilité. Quelle est la glue de chaque camp maintenant ? On ne sait pas. On voit quelle est la glue des écologistes, quelle est la glue du Front National. Mmh. Les autres sont empêtrés dans une sorte d'impuissance due peut-être à la mondialisation, à l'Europe. Une impuissance qu'on leur reproche, nous, quotidiennement.
Et Dieu dans tout ça. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Écoutez, je suis assez stupéfait que l'on ne mette pas en avant le discours sous-jacent de M. Fillon, le discours extrêmement catholique de sa pensée, quoi. Et je suis outré que dans un pays laïque que nous sommes, tous, on ne pointe pas du doigt ce point-là.
Merci Bernard, vous venez de le faire. On va donner la parole ici à Lucien Jaume sur le catholicisme donc qui nourrit l'itinéraire politique de François Fillon et qui choque Bernard au nom de la laïcité.
Oui. Je suis un grand partisan de la laïcité. Je viens encore de publier cette question d'ailleurs. Mais je ne fais pas chorus avec tous ceux qui accablent actuellement le candidat Fillon sous son catholicisme, paraît-il, envahissant. Il me semble que c'est vouloir chercher un arrière-fond dans lequel il s'est formé, ce notable de province, menant une vie traditionnelle avec 5 enfants, catholique, il va à la messe, n'est-ce pas, il va à la messe, oui. Bon, etc. J'ai l'impression qu'on lui fait un procès un peu excessif. Je viens de lire le dernier document des évêques de France. Il a lui-même répondu au premier document des évêques en octobre. Je trouve qu'il a répondu pas mal. Quant au deuxième document des évêques de France, je suis frappé par le fait que les évêques mettent en garde contre le médiatique, contre de nouveau un système qui cherche avant tout à faire apparaître des images des gens, l'image de Fillon, l'image de Juppé, l'image de Nathalie, évoquée tout à l'heure.
Kosciusko Morizet.
Voilà. Je sais pas. Par contre...
Ça vous étonne pas que le catholicisme revienne dans le débat
alors,
public ?
Personnellement, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que, étant quand même un peu historien des idées politiques, et notamment du libéralisme depuis la Révolution française, notamment, entre autres choses, cette culture catholique, en réalité, elle continue à imprégner, elle continue. Sans cette culture catholique, vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, ce qui s'est passé sous la Révolution française avec la Constitution civile du clergé, ensuite avec le culte de l'être suprême au moment des Jacobins. Vous ne pouvez pas comprendre les grands débats sur l'école, vous ne pouvez pas comprendre d'où est sortie la loi de 1905, et à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas comprendre nos difficultés vis-à-vis de l'islam et notre approche parfois très maladroite vis-à-vis de l'islam. Donc moi, je ne suis pas surpris, mais je trouve qu'on fait à Fillon presque un mauvais procès. Mmh. Il faut à tout prix caricaturer. Alors Fillon, ça va être la sacristie. Et puis Juppé, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être l'éclectisme, les grèves de 95. Bon, j'aime pas ces images.
Karine Bécard sur la religion et François Fillon.
Les médias caricaturent souvent très vite. Et là, en ce moment, surtout dans l'entre-deux-tours, on est parti à fond Fillon, Cato. Bon. Si on regarde tout l'itinéraire de sa primaire, de sa campagne, qui a commencé quand même il y a 3 ans, honnêtement, la religion catholique n'a pas été super présente
dans les meetings.
Il en parle quasiment pas. Enfin, je veux dire, encore mardi dernier, par exemple, pour reprendre celui-là, il en a pratiquement pas parlé. Il a parlé de la famille pour redire, encore une fois, effectivement, qu'il maintiendrait le mariage homosexuel, mais qui reviendrait sur l'adoption, plénière. Il y aura toujours cette adoption simple possible. Ce que je veux dire par là, c'est que Il y a eu un jeu, effectivement, de stratégie électorale. Il s'est dit que lui pouvait effectivement capter cet électorat-là. Et ça lui a été largement soufflé, notamment par son directeur de campagne, à savoir Patrick Stefanini, qui lui, effectivement, les chrétiens d'Orient, voilà, c'est une cause qui lui est importante, etc. Il a lancé François Fillon sur ce dossier-là. François Fillon a tenu un grand discours au mois de mai ou juin en faveur des chrétiens d'Orient. Ça a été vraiment organisé, orchestré par Patrick Stefanini. Il a essayé de garder la bonne distance, j'ai envie de dire, par rapport à l'électorat catholique. Aujourd'hui, effectivement, il le capte, mais je trouve qu'il n'en rajoute pas. Mm-hmm. Il me semble assez équilibré sur le dossier.
Il n'y a pas de proposition concrète, en plus, qui soit directement issue de l'épiscopat. Ouais.
Jean-Louis Bourlange, sur la dimension religieuse catholique.
C'est un problème absolument passionnant, parce qu'il plonge, effectivement, comme l'a dit Lucien Jaume, il plonge absolument dans l'histoire de France. Je crois que si on prend de la distance, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes périodes et que nous sortons vers, nous arrivons à une troisième période. La grande période, c'est celle du 18e et du 19e siècle, qui est une lutte en profondeur contre le catholicisme, contre le christianisme, avec une conception, avec des tas de formules. Il y a l'être suprême, il y a les théophilanthropes qu'on, à l'époque du directoire, on appelait les philoanthropes quand on était contre, la revelière repos, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de choses, et ça arrive à quelque chose de très dur, qui culmine avec la loi Combes, mais c'est là que se produit le changement. Car en fait, la loi de séparation, qui est voté sur le rapport d'Aristide Briand, et qui est en fait en sous-main soutenu par le Saint-Siège. Le Saint-Siège proteste, il fait véhémenternos, il fait une encyclique, mais en réalité, ils sont ravis de la séparation. Et là, on a une période d'apaisement qui aboutit jusqu'à la Ve République, avec les lois sur l'organisation du système scolaire, l'échec de la gauche pour remettre en cause tout cela. Et puis maintenant, nous aboutissons à une troisième. Alors c'était très bien, la période, c'était séparation. Chacun fait... La religion, c'est le fort intérieur, c'est pas le privé, mais c'est le fort intérieur d'abord, c'est un engagement personnel, ça, bon, et on respecte les lois de la cité. Et maintenant, on voit bien qu'on aboutit partout à une renaissance du phénomène religieux, et pour des raisons fortes. D'abord, l'effondrement des idéologies. On avait une lutte capitalisme contre marxisme, contre léninisme, c'est fini, et partout on se ressource à la fois sur des identités ethniques nationales et sur des appartenances religieuses. Donc on a quelque chose qui domine. Alors là nous sommes, et deuxièmement, le christianisme. La crise de l'Église est fondamentale. La diminution du nombre des messalisants, de gens qui vont à la messe, la diminution au cours des 20 dernières années, mais Dominique a écrit là-dessus des choses dans son livre sur les populismes, etc., des choses tout à fait importantes, on voit bien que tout ça change complètement. Et alors là, on a donc à la fois un courant de gens, qui est un peu celui qui a été exprimé à l'antenne à l'instant, de gens qui nous disent, mais ils nous bassinent, les catholiques, c'est une minorité, etc., et puis en même temps, les catholiques qui disent c'est ça qui compte, la loi de Dieu, c'est important. S'agissant de Fillon, je crois que c'est effectivement un mauvais procès. Je ne vois pas ce qu'on lui reproche. Un catholique a le droit de vivre en catholique sa relation à la cité. C'est-à-dire qu'il a le droit d'être pour ou contre l'avortement, pour ou contre telle chose. C'est un problème. Ce qui est inadmissible, c'est que l'Église impose des choix. Mais les électeurs, les citoyens ont le droit d'imposer des choix. Donc là, on a cette réalité. Et Fillon, en l'occurrence, moi je suis plutôt... D'ailleurs, Juppé a dit, moi je suis à peu près sur les mêmes idées que Fillon, mais il a dit, moi j'étais un peu gêné par cette introduction de l'homoparentalité dans le code de la famille, c'est pas mon genre, mais on va pas faire une guerre civile là-dessus, parce que ça correspond à des choses importantes, et comme diraient les évêques, d'autres enjeux nous sollicitent. Bon, mais en revanche,
Fillon veut modifier un petit peu la loi.
Oui, quoi. Mais alors là, attends, juste un mot sur un truc important, c'est que sur les problèmes de famille, moi je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas directement lié à la religion, mais qui est fondamental, c'est qu'il y a depuis 30 ans, 20 ans, un conflit de légitimité entre deux revendications. Une revendication du droit aux origines, notamment sur l'adoption. Les gens ne peuvent plus supporter d'être nés sous X, etc. Ils veulent savoir d'où ils viennent. C'est une revendication très profonde et très justifiée. Et de l'autre, l'abolition des origines, l'abolition du génétique au profit du choix. Et là, ces deux logiques se heurtent et il faut effectivement trouver un point d'équilibre. Il n'est pas actuellement atteint par la loi.
Dominique Régnier, je pensais que la France était un pays laïque, mais aussi sécularisé. Parce qu'il y a des pays laïcs qui ne sont pas sécularisés, oui, où oui. Dieu est encore très présent dans l'espace public. Oui. Je pensais que nous cochions les deux cases.
Oui. Non, on est
4% de pratiquants catholiques. Oui. Oui. À peu près, oui.
On est dans un contexte là aussi.
Dominique Régnier.
La globalisation, c'est un monde où le religieux fait retour. Hein. Les études montrent aujourd'hui, quand on quantifie tout ça à l'échelle de la planète, que la religion est beaucoup plus présente aujourd'hui, en réalité, qu'il y a 10 ou 20 ans, et c'est documenté de manière tout à fait précise. Et la France se retrouve aussi, par la globalisation, prise dans un retour du religieux, qui est multiforme. Ce qui est amusant, c'est de voir, par la question qui a été posée, l'interpellation, prêtée aux catholiques, un pouvoir considérable, un peu comme Libération, je crois que c'était ce matin, sur les lobbies catholiques.
Jésus revient.
Jésus, au secours, Jésus revient.
C'était
au secours,
la une,
au secours, Jésus revient. Et l'abbé Grosjean disait à juste titre qu'il en était presque fier, mais très étonné surtout de voir qu'on pouvait parler de lobby catholique. Le pape François a plutôt, lui, récemment indiqué qu'il pensait que le christianisme pouvait assez vite disparaître de l'Europe. Ce qui est étonnant, c'est d'entendre une conception de la laïcité qui conteste presque, à François Fillon, le droit d'être catholique. Ça m'a beaucoup frappé dans la question telle qu'elle était énoncée, comme si le fait d'être catholique était en soi de l'anti-laïcisme, en quelque sorte. C'est un symptôme, je trouve, de ce malaise. Je reviens, mais je serai bref, à ma remarque précédente. C'est un symptôme de ce malaise qui nous saisit désormais dans ce rapport à des valeurs. Nous en avons perdu l'habitude. Nous avions un rapport, c'est ce que disait Jean-Louis Bourlange, à des idéologies. Elles se sont métamorphosées, elles ne sont plus là, elles reviendront peut-être, je ne sais pas. Mais nous n'avions plus l'habitude d'avoir un rapport aux valeurs. Et nos politiques, comme beaucoup de citoyens, sont acculturés en ce qui concerne le rapport aux valeurs. Les catholiques, on les trouve aussi pour aider les migrants. On les trouve pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est comme ça aussi que se vit le catholicisme. Mais si vous le présentez comme des valeurs profondes qui structurent une vie et une vision, ça crée une forme de malaise et presque de
Thomas Legrand, Frédéric Mettezot.
Ce que je voulais dire, c'est que si on suit ce que dit le pape, finalement, François Fillon ne suit pas tellement le pape sur, effectivement, l'écologie et sur les migrants. Si on regarde très concrètement ce que propose François Fillon et qui pourrait être dû à sa foi, ce qui d'ailleurs est tout à fait légitime, hein, mais ce qu'on pourrait souligner, il y a effectivement cette histoire de remise en cause de l'adoption plénière, et puis effectivement les chrétiens d'Orient. Et ça, c'est plus compliqué, parce que sa position sur les chrétiens d'Orient semble l'aveugler, à mon avis, c'est un avis personnel, sur la réalité de la situation en Syrie. Et je trouve que face à toutes les informations sur les bombardements d'Alep, vous en avez parlé dans la première heure, les bombardements d'Alep, l'horreur que fait subir la Russie et Bachar el-Assad, non pas pour combattre Daesh, parce qu'ils ne combattent pas Daesh, ils combattent d'ailleurs ceux qui combattaient Daesh. Et il y a une sorte d'aveuglement qui est dû à son amour de la cause des chrétiens d'Orient, qui est tout à fait légitime, mais qui, à mon avis, l'aveugle un peu.
France Inter, 20h30, suite de cette édition spéciale. On est ensemble jusqu'à minuit.
France Inter, édition spéciale. Entre deux tours de la primaire de la droite et du centre, Nicolas Demorand.
Frédéric Mettezot, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous êtes au studio de télé et de radio, où le débat va avoir lieu dans une petite demi-heure maintenant. Quelle atmosphère sur place, Frédéric ?
Une atmosphère extrêmement concentrée, extrêmement calme en réalité. Les deux candidats sont arrivés il y a une vingtaine de minutes. François Fillon, le premier, il a fait un tour du plateau, puis il s'est enfermé dans sa loge fermée à clé, porte fermée. Et puis Alain Juppé, pareil, 2-3 minutes plus tard, il est passé par le plateau pour repérer les lieux avant de s'enfermer avec son équipe rapprochée, notamment Gilles Boyer, son directeur de campagne. Et puis, pendant ce temps, le studio se remplit avec les soutiens des deux candidats qui sont là. Citons pour Alain Juppé Jean-Pierre Raffarin, soutien de la première heure, Valérie Pécresse, ralliée juste avant le premier tour, Nathalie Kosciusko-Morizet, la candidate malheureuse, arrivée quatrième dimanche dernier, Jean-François Copé, et puis également Édouard Philippe, le député maire du Havre, fidèle parmi les fidèles. Du côté de François Fillon, assez peu de têtes d'affiche, je dirais. Jérôme Chartier, le député du Val-d'Oise, qui est un des plus proches de François Fillon, Madeleine de Gessais, la chef de file du mouvement de la Manif pour tous, qui sera bien placée ce soir derrière les caméras. Et puis, pas de sarkozyste, enfin juste un, Luc Chatel, mais aucun sarkozyste historique, pas de Brice Hortefeux, pas de Rachida Dati, pas d'Éric Ciotti ou de Christian Estrosi. Voilà Nicolas, les candidats sont là, ils se préparent, ils se concentrent dans leur loge, il y a des fruits, des gourmandises sucrées, de l'eau, des sodas et surtout beaucoup de concentration.
Ben nous on est à l'eau plate ici, Frédéric Mettezo. Merci
Slam.
Et je salue Fabrice qui nous appelle de Lyon, la belle ville de Lyon. Bonsoir Fabrice.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci pour vos émissions, merci de prendre ma question. En fait, c'est pas vraiment une question, je voulais savoir ce que vous pensiez de la volonté de François Fillon de réécrire les manuels d'histoire pour raconter son roman national, voilà, gommer tous les aspects négatifs du passé et gommer l'esprit critique chez les enfants.
Merci pour cette question, le roman, le récit national. Merci Fabrice. Qu'en pensez-vous Lucien Jaume? Ça vous fait sourire.
C'est une grande controverse hein, qu'on a entendue autour de Pierre Nora notamment et de bien d'autres. Alors écoutez, je crois que François Fillon capte très bien tout un courant qui est un courant effectivement autour de Pierre Nora, donc un courant très sérieux, très soucieux de redécouvrir la nation, parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début, qui est quand même la question de la nation. À travers la religion, déjà, peut-être, cela pouvait apparaître. Et est-ce que nous pouvons rester une nation consciente d'elle-même? Alors, on emploie beaucoup le mot identité, que je déteste. Je déteste toute attitude identitaire, mais je dirais peut-être l'histoire et l'esprit de cette nation. Alors, je crois que François Fillon est sincère dans cette idée. Maintenant, ça devient une espèce de gadget aussi dans la vie politique, parce que ces pauvres manuels scolaires, quand on regarde comment ils sont tirés, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, sans compter cet ex-président qui voulait que nous soyons tous descendants des Gaulois, quelle que soit notre origine effective... écoutez, moi je suis pour.
Perplexe quand même.
Mais je suis plénière. Perplexe.
Oui. Très perplexe. Voilà. Jean-Louis Bourlange sur le récit national, le roman national, la nation.
Il y a deux niveaux, deux dimensions dans la question qui est posée. Il y a une dimension, est-ce qu'on doit partir de la nation? Est-ce qu'on doit enseigner l'histoire à partir de la nation? Alors je crois qu'effectivement, pédagogiquement, il vaut mieux partir de ce qu'on est. Et voir ce qu'on a été, de l'endroit où on habite. Donc je crois que c'est légitime de partir de la nation, à condition d'ouvrir, à condition d'élargir les cercles, et de comprendre qu'aujourd'hui, la nation aussi est en crise. Notamment la nation française, la nation à la française, telle que Renan la voyait, on a plutôt une revanche actuellement des nations ethniques. C'est pas pour rien que l'Espagne est en crise, c'est pas pour rien que le problème corse prend une dimension aiguë. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que la Belgique disparaît. C'est pas pour rien que le Royaume-Uni, pensez donc au moment, et crise de l'Europe et crise du Royaume-Uni. Donc on est, ne négligeons pas cet aspect des choses. Et puis il y a une autre, et il y avait quelque chose qui était très juste dans ce que disait notre auditeur, c'est-à-dire la mise en cause de l'aspect critique. Et alors là, je crois que la notion de roman national, le roman national, c'est Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, formidable, hein, mais c'est pas l'histoire.
Il dit pas récit.
Oui, oui, bien sûr.
C'est intéressant, la distinction est importante.
Dire, il faut un récit et une analyse, savoir ce que nous avons appris dans les grandes œuvres historiques de l'école française. Nous ont enseigné beaucoup de choses,
mais pas le roman en tout cas.
Mais non, on apprenait l'analyse critique, on essayait de comprendre ce qui s'est passé, et pas d'exaltation sur la question coloniale, par exemple. C'est une absurdité que de ne pas simplement essayer de comprendre, non pas non plus pour diaboliser et pour invoquer en permanence une mémoire vengeresse par rapport à une situation qui a été terrible. Non, il faut comprendre, expliquer ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons. Et comme dirait Pierre Dac, vous savez, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne.
Thomas Legrand.
Oui, sous le contrôle de Karine, qui a assisté à quasiment tous les discours de François Fillon, je crois qu'il veut confier les prochains programmes de l'histoire aux académiciens.
Académiciens.
C'est aussi intéressant que de confier l'orthographe à des historiens. On sort de la science, enfin...
L'Académie des sciences morales, peut-être.
Voilà, mais pour... Pour prendre plus large l'éducation, il y a une différence très importante et très intéressante qui sera peut-être exprimée ce soir entre les deux candidats sur l'éducation. Et de façon assez originale, Alain Juppé à droite est pas du tout dans cette espèce de volonté de retour à l'éducation autoritaire, verticale, la blouse, la marseillaise,
l'uniforme.
La blouse, il est lui pour les expérimentations. Enfin, il est quasiment
si
pédagogique.
Le chef d'établissement en décide.
S'il vous plaît, elle a assisté à quasiment tous les meetings de François Fillon. Karine Descartes.
Alain Juppé, dont on ne parle pas beaucoup.
Mais juste un détail, après vous continuez Thomas, bien sûr, mais l'uniforme c'est jeté comme ça et en fait tout le monde y voit ce qu'il veut. Parce que quand on lui pose précisément la question, quand on le voit comme ça et qu'on prend un café avec lui, c'est rare parce qu'il n'aime pas trop les journalistes. Mais il vous dit, mais l'uniforme, ça peut être un blue jean et un t-shirt blanc. C'est simplement le fait que chacun soit habillé de la même façon, éviter les inégalités. Alors qu'en fait, tout le monde s'est déjà imaginé, enfin, chacun y voit ce qu'il veut. Et surtout, voilà, tout le monde revoit soit la blouse, soit carrément le petit ensemble un peu britannique, pardonnez-moi, où on voit la cravate,
c'est le genre d'élément de langage qui permet de contenter tout le monde.
Exactement.
Voilà, donc c'est assez pratique. Mais je voulais revenir sur le fait que Alain Juppé, à droite, est assez original. Il est quasiment pédagogiste, ce qui est une insulte à droite. Il est pour les expérimentations. L'autonomie des établissements pour que...
Non,
l'autonomie c'est autre chose, il est aussi pour il est quasiment pour le freiner, si vous voyez, c'est
la pédagogie alternative.
La pédagogie alternative, et ça c'est un débat qui malheureusement n'est pas apparu dans la campagne, et c'est assez dommage.
La parole à Gérard de Vendée, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Gérard.
Oh, je suis très content.
Moi aussi.
Je n'ai que 70 ans, j'ai fait l'ENA. Mais surtout, dans toute ma scolarité secondaire, j'ai eu la chance d'apprendre l'histoire par les livres de Malek Isaac. Mmh. Ces livres étaient d'une neutralité exceptionnelle. Ils nous apprenaient à être ce que c'était qu'une nation. Et non plus ce que, les mecs de la gauche et les autres essayent de tirer chacun de leur côté une idée de ce que c'est que la France.
Vous regrettez quoi, Gérard, exactement ?
Les livres de Malek Isaac qui nous apprenaient à être unis, comprendre pourquoi, on s'est battu, mais à la fin, il y avait une idée. Que le général a pris après la France.
Une certaine idée de la France. Voilà. Merci Gérard pour cette question venue de Vendée ce soir. Jean-Louis Bourlange, un
écoutez,
mot.
Écoutez, moi j'ai appris aussi l'histoire dans le Malek Isaac. Je trouve ça formidable. C'était ordonné, clair, etc. Mais Malek est mort pendant la Première Guerre mondiale. Il faut pas oublier ça. Ensuite, on a la France a profondément changé. On ne peut pas nier qu'il y ait que le monde dans lequel nous évoluons est un monde très 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 profondément différent. Personne, même ceux qui défendent l'idée nationale, ne serait prêt à consentir ces sacrifices inouïs que les Français ont consenti entre 14 et 18, des sacrifices qui forcent l'admiration, absolument, absolument admirable, absolument extraordinaire. Mmh. Mais nous sommes dans un monde très profondément différent, et il faut peut-être quand même ajouter tout ce qu'a apporté l'école des Annales, tout ce qu'a apporté Brodel, tout ce qu'a apporté des gens qui sont aussi plus intéressés. C'était l'histoire de l'État, un peu Malek Isaac, la tradition de Goubert, ceux qui sont intéressés non pas seulement à Louis XIV, mais aux 20 millions de Français qui ont vécu tenter de vivre sous Louis XIV. Tout ça, ça demande quand même, c'est une matière très riche, très nouvelle, mais l'inspiration est quand même là, la rigueur, la continuité, le rétablissement de la chronologie, tout ça c'est essentiel.
Karine Bécard.
Je voudrais juste glisser sur le programme de Fillon et notamment dans ses meetings. Fillon, les sujets qui s'attachent comme ça à l'éducation, c'est sans doute celui sur lequel il est le plus fort, le plus violent dans les mots qu'il choisit quand on fait un meeting. Et ça parle tout de suite.
Et ça marche.
Ça marche.
Salle réagit
ça parle
beaucoup,
vraiment.
Mais il faut voir la salle. Les salles des meetings. vous, je pense que vous avez eu le même, la même impression que moi. Ils ont 70 ans d'âge moyen. C'est les meetings pendant cette campagne, c'était quasi cacochime.
Quel que soit le candidat. Oui.
On peut avoir 70 ans et être un peu libéral.
Bien sûr. Oui. C'était une description.
C'était malvenu, Thomas Legrand.
Ce que je veux juste souligner, c'est que voilà, ça résonne en fait vraiment dans l'auditoire qui est là de présent. Mais je veux vous lire quand même quelques-unes des phrases qu'il est capable de prononcer. Il a dit mardi dernier, ces organisations, en parlant évidemment des organisations syndicales, ces organisations qui empêchent les réformes de l'éducation nationale commettent un crime contre notre jeunesse. Et ça, on l'entend quasiment à chacun de ces meetings.
Et la salle est debout.
Mais ce n'est pas la salle est debout. Démission. Vous commenterez après si vous
attendez,
voulez.
Attendez, laissez-la finir.
Démission de l'État devant les syndicats, dictature d'une caste de pédagogues. Et effectivement, comme le dit très bien Thomas Legrand, dans ces cas-là, vraiment, la salle exulte. Mmh. Donc, il s'attire vraiment une partie de la droite, là, quand il parle de l'école. Et ça fonctionne parfaitement.
Jean-Louis Bourlange et puis Marion au standard.
Moi, je crois que les mots sont tout à fait excessifs et je trouve que tous ces mots devraient être abolis.
Dictature, crime et autres.
Voilà. La réalité des défauts de l'éducation nationale sont quand même absolument indiscutables. Sur les programmes, je voyais un très sympathique économiste que nous connaissons qui me disait qu'il avait participé à l'élaboration des programmes d'économie. Alors, il disait des trucs comme Tirol, etc. Et on lui a dit, c'est très bien ce que vous faites. Maintenant, vous allez le présenter devant les syndicats qui ont dit, ah non, on ne veut pas, on ne va pas mettre, vous dites du bien du capitalisme, etc. Mmh. Ça ne peut pas passer. Ça ne va pas. Et sur la pédagogie, par exemple, ce qu'avait bien montré le recteur Blanquer, le directeur de l'ESSEC actuel, c'est que, par exemple, sur la méthode globale en apprentissage, toutes les enquêtes scientifiques montraient que c'était calamiteux. Et il y a eu un blocage effectivement très profond des corps constitués.
C'est une vieille histoire.
Non, c'est pas une vieille histoire. Et ça, effectivement, ça a entraîné des dysfonctionnements qui sont pas du tout de la vieille histoire, qui sont aujourd'hui des gens qui ne savent pas l'orthographe et qui sont, et ça, c'était un blocage de caractère dogmatique. Mmh.
Marion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Haute-Savoie, soyez la bienvenue.
Merci. Je vous appelle parce que j'ai trouvé durant la campagne pour les primaires républicaines, le thème de l'écologie avait été très peu abordé par tous les candidats. Mmh. Enfin, nous avons accueilli la COP21, c'est quand même un point crucial pour notre génération, celle de nos enfants. Donc simplement, j'aimerais connaître la position des candidats sur le gaz de schiste, les OGM, le nucléaire, enfin les points clés de l'écologie.
Merci beaucoup Marion. Il y a beaucoup de questions sur l'écologie ce soir au standard de France Inter. Karine Bécard, est-ce que vous avez quelques éléments concernant François Fillon et Alain Juppé sur
François Fillon,
le sujet
je l'ai en tête là comme ça. François Fillon, clairement, c'est retour. Le nucléaire est présent, mais c'est vraiment tout axé très largement sur l'électricité nucléaire. Et si c'est bien installé, si ça fonctionne bien, progressivement, on va réussir à s'appuyer un peu plus sur les énergies renouvelables. Mais on n'est pas du tout sur l'écologie versus Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple, qu'on pouvait entendre pendant les débats.
Thomas Legrand.
C'est très étonnant parce que Alain Juppé n'est pas sur cette ligne-là, tout à fait. C'est-à-dire que François Fillon pense que c'est par l'innovation qu'on réglera cette question. Il ne nie pas du tout, il n'est pas climato-sceptique, mais il pense que c'est par l'innovation qu'on réglera ça. Alors qu'Alain Juppé pense qu'il faut quand même opérer une transition énergétique et décarboner l'industrie. Mais Alain Juppé en a très peu parlé.
Mais il y a une très forte critique du principe de précaution, si je ne m'abuse, aussi. Chez François Fillon.
Le principe de précaution
qui a été constitutionnalisé et qui, d'après François Fillon, est un obstacle à un certain nombre...
Oui, c'était fort chez Nicolas Sarkozy et chez François Fillon. Mais ce qui est très intéressant à droite, ce qui est assez significatif, c'est que si vous allez dans la plupart des mairies de droite, et Bordeaux y compris, ils mènent une politique assez environnementaliste.
Bah, à part Bordeaux.
À Bordeaux, mais dans plein d'autres villes. Ils essayent de décarboner les rues, de limiter la place de la voiture, et c'est populaire. Donc c'est populaire au niveau local, mais au niveau national, ils savent que c'est impopulaire. Et là, je pense encore, excusez-moi, mais je pense encore que c'est très lié à l'âge de l'heure. Non, mais à l'âge des électeurs de la primaire.
Jean-Louis. Alain Juppé, simplement.
Karine Bécard, oui.
Alain Juppé a beaucoup utilisé pendant sa campagne de la primaire le fait qu'il était le maire de Bordeaux et qu'il a la réputation, oui, justement, d'être écolo et de rouler en vélo.
Oui, il n'a quand même vraiment pas dit grand-chose,
effectivement, voilà, sur l'écologie.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que je ferai une remarque un peu décalée. Je pense qu'il faut penser à la structure du jeu politique. Une primaire, c'est essentiellement se retrouver sur des thèmes de confrontation. Or, sur l'écologie, en réalité, le seul thème véritable de confrontation, c'est le nucléaire, accessoirement un petit peu les éoliennes, mais là on ne sait plus très bien où on en est, et pour le reste, tout le monde est d'accord. On veut décarboner, on en fait, et alors les gens le font plus ou moins bien. Juppé peut effectivement, à juste titre, se prévaloir de son bilan à Bordeaux. Il a fait de gros efforts. Bon, c'est très bien, mais c'est pas quelque chose qui va cliver au sein de l'électorat de primaire. Donc on n'en parle pas. Et c'est le grand problème de cette primaire, c'est qu'on se concentre en fait sur les choix, sur les que vous avez évoqués tout à l'heure en matière économique, la réduction du nombre de fonctionnaires. Est-ce qu'on fait 100 milliards ou 80 milliards de déficit?
Enfin, là aussi c'est que des histoires de dosage.
Mais là ça n'a aucun intérêt en plus. Bah, oui, c'est des histoires de dosage, mais souvent on essaie d'en faire une vraie polémique, alors qu'en réalité, les enjeux sont tout à fait, il y a des enjeux tout à fait importants qui sont la stagnation séculaire, effectivement l'avenir énergétique de la planète, la sécurité collective, hein, la mutualisation, le fait comment fait-on face à des enjeux transnationaux dans des cadres étroitement souverains. Juppé essaie d'aborder ce problème en acceptant l'Europe. Fillon est beaucoup plus restrictif. Ce sont les vrais sujets, ils ne sont pas au centre du débat.
Il est 20h47, merci d'écouter cette édition spéciale de France Inter.
Édition spéciale entre deux tours de la primaire, de la droite et du centre, sur France Inter.
L'ambiance en studio à France Inter est excellente. Il y a un panachage de sexe, de genre, d'âge. Tout va pour le mieux.
Il n'y a pas beaucoup de filles quand même.
Il n'y a pas beaucoup de filles, effectivement. Mais bon, on essaye. Et au QG d'Alain Juppé, enfin là où sont réunis ses soutiens Delphine Evenou, quelle est l'ambiance? Vous êtes au Players, qui est un café, je crois.
Oui, un pub du deuxième arrondissement rempli d'écrans télé. C'est un peu, Nicolas, deux salles, deux ambiances. Quoique, match de foot en haut, duel politique en bas dans quelques minutes. On va voir à quel étage sont les supporters les plus fervents pour assister à ce débat. Une centaine de personnes qui sont sagement assises en rang. Quatre écrans, sono assez forte pour ne rien rater de cet affrontement entre leur champion et François Fillon. Il y a du travail pour Alain Juppé, 16 points de retard derrière son adversaire dimanche. Mais les partisans du maire de Bordeaux n'affichent pas un visage particulièrement tendu. Difficile toutefois de distinguer l'optimisme réel, mais vous les entendez derrière moi, ils sont quand même motivés de la méthode Coué. Tous assurent qu'une victoire est possible. Les militants espèrent qu'Alain Juppé montrera ce soir son côté rassembleur moderniste pour convaincre le maximum de personnes. Pour ça, il faudra se concentrer sur le détail de son programme, mais en insistant aussi sur les points de divergence. Les soutiens de Juppé ne digèrent toujours pas que ceux de Fillon aient accusé leur favori d'agressivité en début de semaine.
Delphine Evenou en direct du Players, où les soutiens d'Alain Juppé sont réunis. Direction maintenant le Dupont Café pour retrouver les soutiens de François Fillon. Bonsoir Estelle Schmitt, quelle ambiance au Dupont Café?
Bonsoir, une ambiance, vous l'imaginez, qui commence à monter, vous l'entendez peut-être derrière moi. Les militants se serrent, ils sont arrivés depuis un petit moment déjà dans ce bar-restaurant plutôt chic, privatisé pour l'occasion. Alors c'est un bar, pour la petite histoire, qui a déjà retransmis des débats politiques. On se souvient notamment d'un débat Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'était le deuxième tour de la présidentielle de 2012. Autant de matchs de foot, là aussi. Le comité Les Jeunes avec Fillon a fait un appel via les réseaux sociaux et attend à peu près 150 personnes. Alors ils ont collé des affiches partout dans ce bar. Beaucoup de jeunes, effectivement, qui scandent des « on va gagner ». Alors il y a aussi des élus, des fidèles de François Fillon, comme Florence Portelli. On attend Jean-François Lamour, également député de Paris. Mais il n'y a pas que des fionnistes, il y a des sarkozistes également. Le sénateur Roger Karoutchi, de jeunes militants sarkozistes aussi. Ils sont un petit peu moins nombreux, mais ils sont là quand même. Et ils veulent montrer une image d'unité, déjà. Enfin, ils essayent. Pour le moment, tout le monde est un petit peu sage, mais les tables les plus proches des trois écrans géants sont déjà réservées. Les jeunes fionnistes espèrent que leur champion sera resté au-dessus de la mêlée. Serein, ça c'est le mot qui n'arrête pas de répéter. Et surtout qui ne cédera pas à la tentation de la polémique.
il ne se laissera pas faire non plus.
Estelle Schmitt en direct du Dupont Café, 198 rue de la Convention dans le 15e arrondissement de Paris. Bonsoir Denis.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question.
Je vous en prie.
Alors, celle-ci est la suivante. Les primaires ont réuni près de 4 millions de votants à droite. 1,6 million donc pour Fillon. Dans cet électorat, nous avons donc une surreprésentation de l'électorat catholique, plus politisé que la moyenne, et qui avait sans doute aussi...
Oui.
Oui, je continue. Qui avait sans doute aussi l'envie de faire payer à Sarkozy ses revirements sur la loi Taubira. Fillon, bon, avec le refus de la PMA et de l'adoption plénière pour les couples homosexuels, a donné des gages au cœur des conservateurs qui ont fait son élection.
Et donc vous vous demandez s'il va tenir ses engagements ?
J'aimerais savoir s'il est prêt à tenir ses engagements auprès de cet électorat sur la loi Taubira. Et une autre petite... plutôt une réflexion sur sa dimension historique. Je pense qu'il a doublé quand même Nicolas Sarkozy sur sa droite. Lors de certains meetings, il a quand même déclaré « Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord », en ignorant toutes les souffrances que ça avait engagées sur la colonisation des peuples.
Merci Denis pour cette double question. Pourra-t-il tenir tout ce qu'il a promis au cœur de son électorat, au cœur catholique de son électorat
Moi, je trouve qu'il n'aura pas promis grand-chose, en fait.
Karine Bécard. Ah oui, non.
Non, il n'a pas promis grand-chose.
Une loi qui ne sera pas constitutionnelle. Mais
pour le coup,
ça,
c'est quelqu'un
tout.
D'assez droit dans ses bottes. Il ne va pas apprécier peut-être que je dis ça, mais François Fillon, parce que clairement, il a beau avoir Sens commun derrière lui, la manif pour tous. Jamais il a dit, lui, qu'il reviendrait sur le mariage homosexuel. Donc le mariage homosexuel, la loi Taubira dans cette partie-là est validée. Il revient simplement sur l'adoption, et c'est même un peu subtil, parce que souvent on s'en arrête là, on a l'impression qu'il n'y a plus d'adoption possible Voilà, l'adoption plénière, c'est-à-dire devenir intégralement parent quand on est un parent homosexuel. Donc on peut encore...
Et le chemin pour arriver
Thomas Legrand,
pour que cette loi soit modifiée est très long et juridiquement très incertain. Donc
alors,
c'est...
en plus...
Ouais, Lucien Jaume, rapprochez-vous du micro.
Le Conseil constitutionnel risque de dire... Enfin, on voyait la télévision hier ou avant-hier, une dame homosexuelle qui avait une petite fille qui serait sous l'ancien régime et la nouvelle petite fille serait sous un autre régime légal. Le Conseil constitutionnel va faire valoir le principe d'égalité entre les enfants.
Voilà, et François paraît Fillon le sait. Il peut faire cette promesse à peu de frais, elle ne sera pas tenue.
Le seul truc d'ajouter, François Fillon, c'est un politique assez étrange quand on le suit comme ça, jour après jour, parce qu'il est un peu dans « voilà ce que je vous offre, c'est à prendre ou à laisser, si ça vous plaît, c'est très bien, votez pour moi, si ça vous plaît pas, tant pis ». C'est vraiment sa mentalité, enfin moi c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu sur les trois ans où il a fallu le suivre.
Jean-Louis Bourlange,
Je crois que vous avez raison, parce que vous l'avez suivi pendant les trois ans où il faisait la primaire, mais pendant les cinq ans où il faisait le gouvernement, c'était quand même très différent. Donc le problème de François Fillon, c'est qu'il est quand même très double. Il est droit dans ses bottes pendant la primaire, et effectivement, il colle assez étroitement à un certain nombre de thèmes, sans s'engager. Il est assez prudent, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que son discours vis-à-vis des catholiques, c'est à peu près le discours du général de Gaulle vis-à-vis des pieds noirs.
Je vous ai compris.
On ne sait pas ce que ça va donner. Mais en revanche, il est absolument essentiel pour le succès de Fillon s'il gagne l'élection primaire dimanche prochain. Il est absolument essentiel qu'il matine très profondément son programme et son orientation stratégique avec les idées et les alliances d'Alain Juppé. Il faut absolument qu'il fasse ce qu'Hillary Clinton n'a pas très bien réussi à faire avec Bernie Sanders. Car là, la droite pure sucre, avec dur sur tous les sujets, libéral, pas extrémiste, mais libéral, tradit, etc., ça ne fait pas une majorité dans le pays. Et ça, je crois que Juppé a tout à fait... Si j'étais filloniste aujourd'hui, je voterais Juppé. Simplement parce que il faut donner à Fillon
les moyens ultra-stratège.
Il faut donner à Fillon les moyens d'élargir son terrain, de se désincarcérer, si je puis dire, et d'être en mesure de dire, pour gagner, je dois faire une offre politique beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte sur l'Europe, sur la société, sur la protection,
etc. Peut-être ce soir au débat, ou peut-être dimanche en cas de victoire, on verra.
J'ai une petite indication pour vous, parce que
Il y a quelques mois, j'ai interviewé, dans le cadre d'un documentaire que je suis en train de réaliser, François Fillon.
Ah, et il s'est donné... Non,
mais je ne dis pas à quelle date et tout ça.
Il dit juste que c'est lui. Oui, c'est voilà. Ça, c'est moi.
C'est moi. Et François Fillon dit d'Alain Juppé qu'il ne comprend pas sa stratégie. Il pense qu'il se trompe de campagne, que ce que dit Alain Juppé en ce moment, il devrait le dire... Après, c'est-à-dire avant le premier tour,
ce qui laisse entendre que François Fillon,
en ce moment, tient le bon discours pour gagner une primaire de droite,
exactement.
Mais qu'il est tout à fait disposé à avoir un discours qui ressemblera un peu plus à celui d'Alain Juppé, on verra. Ouais. Mais c'était le sens
Lucien Jaume.
Sondage Elab de ce matin.
Un sondage.
N'est-ce pas ? Une majorité de Français expriment leur rejet à l'égard des programmes des deux candidats. 56% ce matin affirment être opposés au programme de François Fillon et 52% à celui d'Alain Juppé. Alors, je crois que
vous avez donc cassé l'ambiance. Merci Lucien.
Rien.
Il y a que 10% des gens qui ont été votés.
Rien. Quant à ce qui se passera à l'élection présidentielle, et ce matin dans le Figaro, François Fillon a dit nous engageons l'élection présidentielle aujourd'hui. Je le trouve bien présomptueux.
On retrouve au studio télé, Frédéric Mettezo, le débat va démarrer dans 4 minutes. Ça y est, les candidats sont sur scène, en piste.
Oui, exactement Nicolas. Les deux candidats sont arrivés il y a environ 5 minutes sur le plateau. Ils ont multiplié les allers-retours entre leur loge et ce plateau, sans doute pour voir les derniers réglages, pour saluer leurs invités, leurs supporters. Et puis, ils sont rentrés, François Fillon... tout seul, très concentré, puis Alain Juppé, également tout seul et aussi concentré. Fini les conseillers, fini les gardes du corps, fini le staff. Ils sont maintenant l'un et l'autre en train de rentrer dans ce match. La zone d'entrée du studio est maintenant éclaircie. Elle nous est interdite puisque l'antenne va prendre dans quelques instants.
Dans
chaque loge, voilà, 3 minutes exactement. Dans chaque loge, les soutiens les plus proches retiennent leur souffle. Sur le plateau, derrière les intervieweurs David Pujadas, Alexandra Bensaïd et Gilles Boulot, les fillonistes et les juppéistes sont parfois côte à côte et ça se passe plutôt bien. Hein, c'est toujours la même famille, même si on peut voir à quelques mètres d'écart Madeleine de Gessé, la chef de file du mouvement Sens Commun, et Franck Riester, l'un des deux seuls députés LR qui a voté le mariage pour tous. Je vous cache pas que pour la photo de famille, c'est assez savoureux et forcément, ils ne soutiennent pas le même candidat. Mmh. Mais ça y est, chaque candidat est en son dossier sous le bras. Je vous rappelle, pour ceux qui verront ce débat, qu'il n'y aura pas de gros plan, vous savez, sur les notes des candidats. Ils ne l'ont pas voulu, qu'on puisse zoomer sur leurs fiches. Il y aura en revanche ce qu'on appelle les plans de coupe. C'est-à-dire que quand
on pourra
voir
la tête d'Alain Juppé quand François Fillon parle, effectivement. Bah écoutez, on va regarder ça.
Et puis on peut aussi l'écouter sur France Inter. Bah
évidemment, on va regarder ça à la télévision, l'écouter à la radio. Merci Frédéric Mettezo. Merci également à Lucien Jaume, directeur de recherche au CNRS, philosophe politiste, à Dominique Régnier qui nous a accompagné dans la première partie de cette édition spéciale. Bah également professeur à Sciences Po et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Jean-Louis Bourlange également était avec nous. Il fut eurodéputé, il fut vice-président de l'UDF quand l'UDF existait encore et il fut professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Il reste un remarquable analyste de la vie politique française, vous avez pu l'entendre. On se retrouve juste après le débat entre François Fillon et Alain Juppé avec Thomas Legrand, Karine Bécard et la rédaction de France Inter.